Session de philosophie éthique par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont le 18 mai 1996, quatrième conférence.
Ah, c'est pas, oui, c'est pas une question de quantité. Parce que quand vous dites égo, mais l'égalité, c'est une question de quantité. Que je dis, est-ce que je suis égal à quelqu'un, c'est est-ce que je pèse le même poids que lui, est-ce que je suis aussi grand que lui. Or, s'il s'agit de l'intelligence, c'est une question de qualité. Et donc je dirais, chacun, pour chacun, la contemplation est ce qu'il y a de plus personnel et d'unique. Je dirais pas une question d'égalité, je dirais, pour chacun, c'est ce qui est le plus nécessaire pour sa personne. Et donc une question de qualité, non pas de quantité. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, mais c'est sûr que je peux dire que si mon intelligence est reçue dans mon âme spirituelle et qu'elle vient de Dieu, toute intelligence humaine est faite pour la contemplation. Et c'est la grande différence entre Platon et Aristote. Pour Platon, il y a un homme qui est fait pour contempler. C'est le philosophe. Et c'est pour ça qu'il doit être roi. Donc pour Platon, on est naturellement philosophe. Il y a des naturels philosophiques. Pour Aristote, tous les hommes désirent par nature connaître la vérité. C'est extraordinairement beau, parce que ça montre bien que ce n'est pas une question de disposition, non. C'est une question de capacité de l'intelligence qui est unique pour chacun. Ensuite, à chacun selon sa manière de trouver, c'est quelque chose de personnel. C'est pour ça que ça relève de l'éthique, c'est une fin personnelle. Donc vous voyez, c'est une bonne question, parce que c'est au fond le grand débat entre Platon et Aristote. Pour Platon, il y a des hommes qui sont faits pour être philosophes, et puis il y a les autres qui sont les pauvres artisans. Alors ceux-là sont les esclaves du premier. C'est pour ça que Platon dira qu'il ne cherche pas le bonheur de chacun, mais le bonheur de l'ensemble de la cité, et que c'est que le bonheur, c'est que chacun soit à la place où il doit être. Donc si tu es fait pour être artisan, reste dans ton coin, et c'est bien ce qui te concerne. Ça, c'est une vision de l'homme très, très... Oui, comme toujours, parce que ça dépend de la vision qu'on a de l'âme et du corps. Parce que pour Platon, l'âme est naturellement contemplative. Mais parce qu'elle est unie à un corps, elle est tombée sur cette terre. Et donc c'est en fonction de la nature de notre corps que nous sommes plus ou moins contemplatifs pour lui. C'est pour ça qu'il y a le fameux mythe dans la République, le mythe des corps d'or, d'argent et d'airain. Si on a un corps d'or, on est philosophe. C'est un langage symbolique. Ah. Et c'est... Faut bien... Il y a, comme toujours, il y a une parcelle de vérité. Parce que c'est évident que si quelqu'un n'a jamais été éduqué à la recherche de la vérité, c'est très difficile pour lui de s'y éveiller. Donc, autrement dit, c'est toujours les rapports entre fin et conditionnement. Et pour Platon, ça n'est pas une finalité, c'est une nature, la contemplation. C'est là que c'est erroné. Mais il saisit quelque chose de juste, c'est que le conditionnement joue un grand rôle. Alors, dans le conditionnement, il y a le corps qui est présent. Et donc, il peut m'aider ou, oui, au contraire, m'appesantir. Et l'éducation joue un grand rôle, c'est évident. Donner le sens de la recherche de la vérité très tôt à un jeune, c'est très important. Même si ça met des années, c'est pas important ça. Mais qu'il ait compris l'importance de ça, c'est essentiel. C'est pour ça que, oui, même point de vue pratique, je considère qu'au point de vue, il me semble, qu'au point de vue de l'éducation, la question de la vérité est une chose fondamentale. Parce qu'on est souvent très attentif au point de vue moral, on doit l'être. Mais l'éducation, l'éveil d'intelligence à la recherche de la vérité, c'est une chose essentielle pour l'éducation. Et donc, au point de vue pratique, ça commence par le fait qu'on ne tolère pas le mensonge, pour commencer. Et on montre l'exigence de la vérité. Si on n'est pas vrai dans la vie pratique, on le sera encore moins au point de vue spéculatif. Oui. Aristote fait cette remarque, il dit « Comment pourrait-on chercher la vérité de philosophe si on ment ?» C'est impossible. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on cherche la vérité d'un côté, qu'on ne la cherche pas de l'autre. Oui. Hein, donc, mais vous voyez, je n'ai pas le temps de développer. Alors, il y a deux, trois questions, puis je veux quand même conclure, parce que sinon... On va rester sur notre fin. Alors, si un jour je vis la même chose que Dieu, je deviendrai comme lui, donc un Dieu. Oui. Et ça vous surprend, la réponse. Vous ne faites que citer la première épître de Saint Jean. Un jour nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Mais c'est au niveau de la vie, pas au niveau de l'être. Et comme cette distinction est très, très importante. Je resterai toujours une créature du point de vue de l'être. Donc éternellement, j'adorerai Dieu. Ça nous est montré dans l'Apocalypse, hein, que les saints jettent constamment leur couronne en face de Dieu, ce qui symbolise l'adoration. Hein. Adorer, c'est jeter. Oui, vous m'avez demandé ce matin comment définir l'adoration. Alors, j'ai répondu, puis je peux dire symboliquement, l'adoration, c'est jeter sa couronne face à Dieu. C'est-à-dire, je ne peux pas adorer en gardant mes droits. Oui. Moi, j'adore avec ma couronne. Oui. Et c'est ce qu'a fait Caïn. Caïn, il n'a pas voulu abdiquer son droit d'aînesse dans l'adoration. Il veut passer devant son frère Abel parce qu'il est l'aîné. Donc on considère qu'il a un droit par rapport à Dieu. Mais aux yeux de Dieu, le droit d'aînesse, c'est rien du tout, parce que c'est le conditionnement humain. Il est né avant son frère, c'est humain. Aux yeux de Dieu, l'âme d'Abel et l'âme de Caïn, elle est regardée de la même manière, vous comprenez ? Dieu ne fait pas différence entre les hommes. Hein ? Dit le livre d'Isaïe, je crois. Vous voyez, c'est important de bien voir ça, hein, de voir que si un jour je vis la même chose que Dieu, et ce je vis la même chose que Dieu, vous voyez, c'est ça, tout en étant une créature. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, hein, la créature et le point de vue de la création, c'est au niveau de l'être. Donc, l'adoration est quelque chose qui restera toujours. Je serai toujours une créature. Je ne serai jamais Dieu dans mon être. Je ne serai pas substantiellement Dieu dans mon être. Je resterai une créature et une personne humaine éternellement. Mais appelée par grâce et élevée à vivre de la vie de Dieu. Oui. Mais puisque je la vis tout en restant une créature du point de vue de l'être, c'est pour ça que même en vivant de la vie de la grâce, hein, donc le mystère de la charité, qui est l'amitié qui nous lie à Dieu au point de vue surnaturel, pour s'exercer, elle s'exerce toujours en assumant l'adoration. Oui. Autrement dit, oui, je ne possède pas la vie de la grâce, puisque je suis une créature. J'y suis appelé par Dieu par pure gratuité. Et donc, même au ciel, quand nous vivrons éternellement ce que Dieu vit dans la gloire, dans la lumière, hein, nous contemplerons Dieu tel qu'il se contemple. Eh bien, oui, même cela, ce ne sera pas le fruit de mes efforts. Ça ne dépend pas de moi. C'est ce qu'on appelle en théologie la grâce de persévérance finale. Hein. Si saint que vous ayez été pendant votre vie, c'est pas ça qui fait que vous allez nécessairement avoir la vision béatifique en fonction de vos mérites. Il y a une grâce de persévérance finale qui est une pure gratuité de Dieu. C'est pour ça qu'on doit prier pour les mourants, hein, toujours. Pour qu'ils soient fidèles dans cet acte ultime de leur vie. Et c'est pour ça que quelqu'un qui a pu mener une vie de chenapan pendant sa vie, s'il se convertit à des moments, il entre au ciel. C'est la pure gratuité de Dieu. Vous voyez, c'est très beau pour nous montrer que la grâce ne dépend pas de notre capacité naturelle. La grâce est la pure gratuité de Dieu. Bien sûr que Dieu tient compte de nos mérites et de nos efforts, c'est évident. Hein, vous voyez, mais la vision béatifique n'est pas à la mesure de nos mérites. Ça nous dépasse, c'est la vie de Dieu en nous. Vous ne pouvez pas l'accaparer, vous ne pouvez pas la conquérir par vous-même. C'est gratuit. Et comment vous le vivez ça? En adorant. C'est pour ça que, même pour le chrétien, sa coopération à la vie de la grâce en lui, c'est d'adorer. Pour que cette vie de la grâce s'empare de tout ce qu'il est. Mais adorer comme chrétien, l'adoration chrétienne, implique qu'on veuille vivre de cette docilité actuelle à l'égard du bon plaisir de Dieu et de l'Esprit Saint. Donc, qu'on laisse la vie de la grâce s'emparer de tout ce qu'on est. Comment est-ce qu'on y coopère à ça? Donc, comment est-ce qu'on coopère à la sainteté? La sainteté, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Hein. C'est pas nous qui nous forgeons notre petite sainteté à la force du poignet. Hein. Ah oui, il y a un saint extraordinaire que j'aime beaucoup. Donc, je vais être comme lui. Mais courez toujours, oui. La sainteté, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Mais ça exige notre coopération. Quelle est cette coopération? Notre bonne volonté. Et comment s'exprime notre bonne volonté? Par l'adoration. Je ne veux que ce que Dieu veut. Je m'offre à lui. Et donc l'adoration, c'est ma coopération pour que la grâce prenne tout en moi. Et ça, c'est bien la coopération de la créature. Oui. Comme créature, j'adore. Et même pour le chrétien, c'est la manière de coopérer à la vie de la grâce qui est la vie de Dieu en lui, qu'il reçoit par pure gratuité. Autrement dit, vous voyez, je ne possède pas la grâce par moi-même. Ça, c'est l'erreur du pélagianisme. Contre laquelle saint Augustin a beaucoup lutté, hein, où Pélage prétend que la grâce est le fruit de nos mérites. Hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous voyez, hein, je fais des efforts à la force du poignet, puis Dieu me donne la grâce en fonction de mes efforts. Non, la grâce, c'est la pure gratuité de Dieu. Mais je réponds à cet amour en coopérant le plus que je peux. Et quelle est ma coopération plus profonde? L'adoration et la recherche de Dieu, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, la contemplation. Mais d'abord l'adoration. Je ne possède pas la fille de la grâce. Et même au ciel... Vous voyez bien, hein, je serai semblable à Dieu, mais dans l'ordre de la vie, pas dans l'ordre de l'être. Je resterai une créature distincte de Dieu. Alors, étant donné que Dieu est miséricorde, ceux qui refusent Dieu peuvent-ils avoir la vision béatifique? S'ils refusent l'existence de Dieu, ils n'auront jamais un bonheur intellectuel. Attention, vous confondez les choses. Hein, s'ils refusent l'existence de Dieu... C'est pas une question de refuser l'existence de Dieu. Vous voyez, C'est... Et puis, c'est deux ordres différents. Vous voyez, la vision béatifique est de l'ordre surnaturel. Ce n'est pas une question de notre capacité naturelle d'intelligence. Je peux très bien être vraiment un saint et n'être jamais entré vraiment dans la sagesse philosophique. Ce n'est pas la question. Mais, si j'ai, mais je dois avoir. Mais ce qui est très beau, vous voyez, c'est que les saints, même ceux. Donc là, on est une éthique chrétienne. Même les saints qui n'ont pas le sens tellement d'une sagesse philosophique, ils ont toujours le sens du respect de la vérité. Toujours. Ce n'est pas une question d'avoir la sagesse philosophique, c'est une question d'avoir le désir et d'en comprendre l'importance. Et quelqu'un qui fréquente Dieu, il ne sera jamais opposé à la vérité. Toute vérité l'intéresse. C'est très important. Alors, il ne verra peut-être pas toute l'importance que ça, mais ça, c'est secondaire. On ne lui demande pas d'être philosophe. Oui, la vision béatifique, c'est en fonction de notre intensité de charité, pas en fonction de notre capacité intellectuelle. C'est très important. Et ça, c'est ce que dit saint Augustin, c'est la tentation du démon. Ça, oui. Le démon voudrait que la sainteté dans l'ordre surnaturel soit proportionnelle au degré d'intelligence de la créature. Oui. Donc c'est une question de justice pour lui. Alors que la vision béatifique de Dieu, c'est le bon plaisir de Dieu, c'est par pure gratuité. Dieu fait grâce à qui il veut. Oui. Et c'est ça qui est très difficile. Vous voyez, c'est ce que vous verrez dans l'éthique chrétienne demain. L'éthique chrétienne commence par la pauvreté et par la gratuité absolue. Ça vient d'en haut. Ce n'est pas une question d'effort de l'homme qui cherche Dieu. Ça, c'est l'éthique religieuse. Alors, il y a une question sur les internautes. Je ne vais peut-être pas répondre à ça, parce que ce serait un peu long. Hein, oui. Je vous la lis, puis vous y réfléchirez. Donc, comme ça, vous vous éclairez mutuellement. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas parler du désir naturel de voir Dieu à un niveau d'éthique religieuse. Si je considère le Créateur comme Père, comme Source, n'est-il pas un bien suffisamment déterminé pour attirer ma volonté ? Oui, d'accord, mais ce n'est pas le désir naturel de voir Dieu, ça. Et donc, pour envisager un désir naturel de le voir et de partager sa vie ? Non. Voir Dieu tel qu'il est, c'est la grâce. Parce que c'est connaître Dieu tel qu'il se connaît. Vous ne pouvez pas prétendre à ça, vous n'êtes pas capable. Bon, vous ne pouvez pas désirer quelque chose dont vous n'êtes pas capable. Le désir naturel, c'est un désir proportionnel à la nature humaine. Il faut bien faire attention. Donc, je ne réponds pas plus, parce que j'ai donné l'axe ce matin en disant que c'était la question pour ceux. Si c'est quelqu'un qui a déjà fait de la théologie, qui réfléchit sur la puissance obédientielle. Ce langage curieux. De même, ça, je ne réponds pas, parce que c'est une question encore par rapport à la théologie. Quand on se passe dans l'ordre génétique, vous mettez philosophie, ou dans l'ordre de perfection, la foi, mais non. Ce n'est pas adéquat, ça, vous voyez. Philosophie et foi ne recouvrent pas ordre génétique et ordre de perfection. Attention, vous bloquez deux distinctions tout à fait différentes. Et donc, je réponds pas, parce que... Vous demanderez dans le groupe de travail ce soir, si c'est un... Quelqu'un qui suit la session, si c'est un frère, j'ai honte. Si c'est quelqu'un qui suit la session, vous demanderez ce soir dans le groupe de travail. Comment comprendre les distinctions entre l'ordre génétique et l'ordre de perfection en philosophie, c'est de la philosophie, cette distinction. Donc ça ne recouvre pas philosophie et foi. Alors, donc... Vous voyez, je voulais un petit peu, pour conclure, parce que je crois que c'est très important, et c'est un problème qui est... C'est vrai qu'il est très concret. Parce que, vous voyez, on aurait tendance à dire, quand on voit ce qu'on vient de voir par rapport à l'éthique religieuse, on pourrait dire, mais alors quoi ? Donc, l'adoration qui s'ouvre à la contemplation, et on a vu rapidement qu'elle était source aussi d'un abandon par rapport à Dieu. L'abandon porte, par rapport à la providence. L'adoration regarde avant tout le Créateur. Donc la providence, comme je viens de le rappeler à certains, la providence... Le philosophe peut en parler. Oui, c'est pas la providence aussi au sens où on galvaude un peu ce mot aujourd'hui, parce que quand on dit oui, c'est la providence qui a voulu ça. Attention, pas la mettre partout. La providence, c'est quoi ? C'est de comprendre que si Dieu est mon créateur et que je suis un esprit, que j'ai l'intelligence et la volonté, Dieu, dans la recherche de mon bonheur, qui est lui, ne m'abandonne pas à moi-même. Donc la providence, c'est le regard de Dieu sur Dieu comme Père. Dieu non seulement est le créateur, source de mon être, mais il est le Père qui me conduit dans la recherche de mon bonheur, parce que ce bonheur, c'est lui. Il est donc celui qui m'attire. C'est pour ça que c'est important de bien voir ça. Oui. Et il faut encore distinguer aussi la providence de ce qu'on appelle en théologie et en théologie naturelle le gouvernement divin. Et ça, c'est saint Thomas le premier qui fait cette distinction. La providence, c'est en Dieu. C'est le regard éternel de Dieu comme Père sur moi en tant que je suis fait pour un bonheur. Donc, vous voyez, comment Dieu me regarde-t-il ? En tant que je suis appelé au bonheur qui est lui. Je peux en parler en philosophie. Hein. Le théologien précisera, donc celui qui à la fois précisera, que ce bonheur, c'est de vivre ce que Dieu vit. Mais le philosophe peut dire que Dieu veut mon bonheur, et ce bonheur ne peut être que lui. Il ne sait pas comment, mais il sait ça. Le gouvernement divin, c'est de l'ordre de l'exécution, oui, donc des actes quotidiens. Et dans le gouvernement divin, c'est pas en Dieu, ça tient compte de toutes les causes secondes, oui, donc tous les événements de ma vie quotidienne. Vous voyez, distinguez bien, hein, la raison de la providence, c'est le regard éternel de Dieu sur moi en tant que je suis fait pour un certain bonheur. Et le gouvernement divin, c'est l'exécution des événements. Et Dieu, alors là, n'agit pas toujours directement. Oui, ça, c'est en Dieu. Et que le gouvernement divin, Dieu se sert des causes secondes. Oui, donc des hommes, de la nature, des anges, etc. Dieu se sert des anges dans ce gouvernement divin, c'est évident. Il nous éclaire en servant des anges. Dieu se sert des hommes. Oui. Nos parents sont causes secondes dans l'ordre de l'exécution. Oui. Dieu nous crée immédiatement, mais il se sert du fait que nos parents se sont aimés et ont été source d'un nouvel être. Il se sert de ça. Il respecte l'ordre de la nature. Oui. Ça, c'est le gouvernement divin et les causes secondes. Donc, il montre le lien entre Dieu et la nature, Dieu et la volonté humaine, etc. Oui. Alors, oui. Donc, quand je regarde ça, voyez, on a vu ça, hein, comment l'adoration s'ouvre à la contemplation et implique un certain abandon par rapport au mystère de Dieu comme providence. Dieu veut mon bonheur et me conduit vers ce bonheur. Je le sais, il est le Père de mon esprit. Oui, on pourrait dire, et c'est la tentation, par exemple, de Platon, de dire, ben, puisque c'est comme ça, vous voyez, ça supprime radicalement ce bonheur premier qui est l'amitié. Et c'est, on entend souvent des gens dire ça, ça existe. Hein, des gens qui vous disent, oh, oui, oui, moi, je ne cherche que Dieu. Donc, l'amitié, j'ai dépassé ça, enfin, vous voyez, ça ne me concerne plus. C'est très intéressant, mais ça c'est faux philosophiquement. Et il faut donc essayer de comprendre comment l'adoration qui s'ouvre à la contemplation ne supprime pas l'amitié, mais va la transformer. Oui, donc on retrouve ce qu'on a vu ce matin, la différence entre le tiesti et le pos. Donc entre le qu'est-ce et le comment. L'éthique religieuse, donc l'adoration, ne supprime pas l'amitié. J'aime toujours mon ami. Parce que l'ami est un certain absolu. Et Dieu ne relativise pas l'ami au sens de supprimer l'ami. L'amour de Dieu n'est jamais rival de l'amour d'une personne humaine. Pourquoi ? Parce que la personne humaine que j'aime, elle vient d'abord de Dieu. Si elle est créée par Dieu. Donc il n'y a pas de rivalité. C'est très concret et c'est très fort de comprendre ça. Quand vous opposez Dieu et l'ami, vous opposez Dieu et quelqu'un qui vient de Dieu. Ou alors, c'est que vous amène un amour passionnel. Alors ça, d'accord, la pure passion s'oppose à l'adoration contemplative. Ça, d'accord, c'est même un des plus grands obstacles. L'amour passionnel est peut-être le plus grand obstacle, ou un des plus grands, à la découverte de l'adoration contemplative. En tout cas, de la contemplation. Et si je reste dans le pur sensible, j'ai beaucoup de mal. Vous voyez, c'est important de bien voir ça. L'adoration ne va pas supprimer l'amitié, mais va lui donner un exercice nouveau. Donc, vous voyez, un comment, une manière de la vivre nouvelle. Donc, j'aime toujours autant l'ami, vous voyez, l'ami qui spécifie ma volonté. Quand j'adore, bien sûr que je suis relatif tout entier à Dieu, mais ça ne m'empêche pas d'aimer l'ami. J'aime toujours cette personne-là. Mais dans la mesure où j'adore et je découvre Dieu comme créateur, et comme père, j'aime l'ami avec ce nouveau regard. Et donc, c'est ça que l'adoration va transformer. Vous voyez, elle va donc me donner une manière nouvelle de vivre de l'amour d'amitié. Alors, quelle est cette manière nouvelle? Et c'est ça qui est intéressant. Donc, vous voyez, quelles sont, autrement dit, on pourrait dire, les répercussions de l'adoration, et donc de l'attitude religieuse, sur l'homme dans sa manière de vivre de l'amitié. Et deuxièmement, donc vous voyez, par rapport à l'amitié, et vous avez vu hier comment l'amitié exige aussi les vertus. Donc second problème, qu'est-ce que l'adoration va changer, va transformer dans nos vertus morales? Vous voyez, d'abord, premièrement, par rapport à l'amitié, Qu'est-ce qui est changé dans mon amitié du fait même que j'adore Dieu, le Créateur? Deuxièmement, qu'est-ce que ça modifie dans l'ordre des vertus morales? Donc vous voyez, y a-t-il une prudence religieuse? Y a-t-il une justice religieuse? Y a-t-il un courage de l'homme religieux, une tempérance de l'homme religieux, etc. Et puis, y a-t-il des vertus nouvelles qui apparaissent en éthique religieuse? Alors oui, j'en note deux, parce que je n'aurais peut-être pas tant développé tout à l'heure, je vous les note. L'humilité et l'obéissance, ce sont des vertus propres à l'éthique religieuse. Du point de vue strictement humain, l'obéissance n'est que temporaire. On demande à un enfant d'obéir tant qu'il n'est pas capable de se gouverner par lui-même. Mais quand il a la prudence, il n'a pas à obéir. Oui, les parents n'ont plus qu'un rôle de conseil. Hein? Et c'est les rapports de l'autorité de l'obéissance. Tandis qu'au niveau religieux, l'obéissance devient une vertu. Parce que je reconnais l'autorité de Dieu et des instruments de Dieu sur moi. C'est très important, vous voyez, de voir ça. Et de même l'humilité. Alors ça, je vais y revenir tout à l'heure. Vous voyez? D'abord, qu'est-ce que ça change dans l'amitié? Si, déjà dans l'amitié, oui, on a vu ça hier, hein, l'amour spirituel qui est réciproque, ça implique donc, vous voyez, d'aimer l'autre, j'aime l'autre, pour lui-même. Et donc, je dépasse tout ce conditionnement sensible qui risque un tout petit peu toujours d'accaparer l'autre. Et aimer l'autre pour lui-même, dans le regard de l'adoration, mais ça veut dire l'aimer de manière encore plus profonde. Parce que ça veut dire, vous voyez, ça veut dire quoi? Vous voyez que l'ami... Par rapport à Dieu, Dieu est découvert comme ma fin ultime. Mais l'ami reste toujours une fin propre pour moi. Et donc, j'apprends à regarder cette finalité qui est pour moi l'ami dans la lumière de cette fin ultime qui est Dieu. Et c'est extrêmement concret. Parce que ça veut dire que j'apprends à m'aimer moi-même et à aimer mon ami dans le regard de cette primauté de l'attraction de Dieu comme créateur que j'adore et que je cherche à contempler. Et donc, vous voyez, je découvre d'abord dans l'autre le regard de Dieu sur lui. Ça va très loin au point de vue concret. Ça veut dire, vous voyez, que l'adoration me fait prendre conscience de ce fait que l'ami, il doit être aimé comme celui qui est une fin propre, mais qui en même temps est relatif à cette fin ultime qui est Dieu. C'est très étonnant, ça. Ça veut donc dire, vous voyez, que ça donne une liberté dans l'amour d'amitié qui est extraordinairement profonde. Parce que vous voyez, j'apprends à recevoir l'autre et à l'aimer dans la lumière de cette adoration et de l'abandon de Dieu. De l'abandon par rapport à Dieu. Vous voyez, parce que, au fond, vous voyez, tant qu'il n'y a pas cela, on risque toujours un tout petit peu, dans l'ordre de l'amour d'amitié, d'être uniquement un peu dans une intersubjectivité. Et parce que l'amour d'amitié implique la réciprocité. Vous voyez, donc on est un tout petit peu, vous voyez, je ne dis pas dans un jeu de miroir, mais on risque toujours un peu, vous voyez, hein, on est un peu fébrile, si vous voulez. Parce qu'on s'accroche à l'autre comme étant notre source de bonheur, puisqu'il est notre fin. Dans la mesure où on découvre cette fin ultime qui est Dieu, et donc qu'on découvre cet abandon par rapport à Dieu, de notre volonté, notre capacité d'aimer est remise à Dieu dans l'adoration, donc offerte. Donc l'ami lui-même est offert à Dieu. J'aime l'autre en l'offrant à Dieu dans l'adoration. Par conséquent, ça met en moi la dimension d'un respect et d'une liberté extrêmement profonde par rapport à l'autre. Il n'y a plus aucun accaparement, si vous voulez. Je l'aime dans ce respect de quelqu'un que j'aime dans la lumière de Dieu. Et donc, de savoir que mon amitié dans l'adoration, elle est confiée à Dieu. Alors, vous savez, ça va très très loin, parce que ça veut dire que dans l'éthique religieuse, l'amour d'amitié a quelque chose d'éternel. C'est très étonnant. Et c'est pour ça, vous voyez, que la fidélité dans l'amour d'amitié, au fond, exige vraiment l'adoration. On peut être pleinement fidèle dans l'ordre de l'amour d'amitié, donc dans ce choix réciproque, que grâce à l'adoration, qui nous stabilise radicalement dans notre volonté. Et donc qui nous fait découvrir dans la personne de l'autre, avant tout l'absolu spirituel qui est en elle. Et donc son âme créée par Dieu. Et c'est très étonnant, parce que vous voyez, ça veut dire que malgré tous les défauts de l'ami, qui peuvent m'agacer, il y a une fidélité par rapport à la personne, parce que je découvre dans l'autre ce que Dieu regarde en elle, ce qu'il y a de meilleur dans cette personne. C'est son âme spirituelle qui est créée par Dieu. Il y a un absolu, autrement dit, dans la personne de l'ami que je découvre pleinement grâce à l'adoration. Donc, loin de diminuer mon amitié, ça l'approfondit, ça l'agrandit. Mais c'est très exigeant, vous voyez, parce que ça appauvrit énormément. Hein. Parce qu'il faut accepter de comprendre qu'on n'y a plus aucun accaparement. Et donc, j'allais dire, on sent à la fois une force beaucoup plus grande et en même temps une fragilité beaucoup plus grande. Voyez, parce qu'on accepte dans cette dépendance actuelle au bon plaisir de Dieu. Et donc, vous voyez, l'exercice de notre amitié grâce à l'adoration, il est comme remis au bon plaisir de Dieu. Mais en même temps, je sais que Dieu en est le garant, parce qu'il est source de tout amour. Et donc, il y a bien quelque chose d'éternel dans l'amitié, dans une éthique religieuse. Et donc, une fidélité, j'allais dire, substantielle. C'est très important de comprendre. Et Aristote pose déjà la question, vous savez, il dit ça. Il dit dans l'éthique à Nicomaque, il dit, est-ce que l'amitié peut durer complètement, toujours ? Il dit, c'est évident que quand on est séparé de l'autre, ben, c'est une amitié en puissance parce qu'elle ne s'exerce pas. Vous voyez, c'est la question de l'exercice, toujours. Le lien entre l'amitié et l'exercice de l'amitié. Et du point de vue strictement humain, vous n'allez pas dire à quelqu'un, écoute, je t'aime tellement que je ne peux plus te voir. C'est un peu bizarre, oui. L'amitié réclame l'exercice. L'éthique religieuse, grâce à l'adoration, vous permet de dépasser complètement l'exercice, de cette manière. Et donc de comprendre que la fidélité n'est pas liée à l'exercice, mais avant tout au choix qui porte sur l'absolu de l'autre dans son âme spirituelle. Et ça va très loin comme regard, hein, parce que ça permet d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a vu hier, cette distinction entre la vie commune et l'amitié. Dans l'éthique religieuse, grâce à l'adoration, l'ami, il est aimé indépendamment de la vie commune, pour l'absolu qu'il représente pour Dieu, en premier lieu, parce qu'il vient de Dieu. Et ça va très loin comme regard. Hein. C'est ce que c'est bien ça, l'absolu de la fidélité. Alors, ce sera encore plus vrai dans l'éthique chrétienne. Parce que dans l'éthique chrétienne, c'est pas seulement éternel, c'est divin. Hein. C'est mystère de la charité, mais vous verrez ça demain. Et donc, mais voyez bien déjà, hein, comment l'adoration, loin de me faire quitter l'ami, me donne un sens encore plus grand de l'absolu de la personne de l'autre. Et de cet absolu intérieur en lui, qui est son âme spirituelle, qui est créée par Dieu. Vous voyez, donc ça a comme conséquence, hein, en plus, d'avoir un beaucoup plus grand respect par rapport à l'autre. Et je dois accepter que l'autre, il est aimé plus par Dieu que par moi. Ce qui n'est pas facile à accepter, vous voyez. Parce que dans l'ordre humain, on n'accepte pas ça du tout. Et quand on aime vraiment quelqu'un, on n'est pas content parce que quelqu'un l'aime plus que nous, vous voyez. Au point de vue religieux, vous voyez, il y a une pauvreté radicale parce qu'on sait que jamais l'amour qu'on a pour la personne qu'on aime n'est adéquat à l'amour que Dieu a pour elle. Jamais. Et donc l'adoration, vous voyez, nous fait prendre conscience de ce fait que Dieu passe avant moi par rapport à l'ami. Que Dieu est la fin plus ultime de mon ami que moi-même. Et donc vous voyez, ça donne une espèce de discrétion, donc de respect. L'ami accepte de s'effacer devant son ami quand il s'agit de Dieu. Et donc ça veut dire aussi qu'il y a la chose la plus grande qu'il y a dans l'amitié, et c'est ce respect très grand. Hein. La chose la plus grande qu'il y a dans l'amitié, c'est ensemble de chercher Dieu. C'est pour ça que je peux dire, voyez, que du point de vue de l'éthique religieuse, l'ami est celui qui m'ouvre à Dieu. Hein, c'est l'absolu de l'amour et quelque chose qui me dispose, qui m'ouvre aussi à m'ouvrir à Dieu, à chercher Dieu. J'allais dire, voyez, l'adoration la plus personnelle, elle prend corps quand j'offre à Dieu l'ami que j'aime d'une manière particulière et unique et personnelle. Parce que j'offre à Dieu le trésor de mon cœur, oui. C'est très important de voir ça, hein, parce que j'ai dit ça à propos d'Abel. Hein, l'adoration implique qu'on offre à Dieu ce qu'il y a de meilleur en nous. Or, qu'est-ce qu'il y a de meilleur ? C'est notre cœur en tant que capable d'aimer. Et notre cœur capable d'aimer, il est parfaitement en acte quand il aime en acte une personne. Et donc, quand vraiment on prend conscience de ça, vous voyez, l'adoration fait qu'on offre même notre capacité d'aimer concrète à Dieu. Et donc, vous voyez, par conséquent, tout l'exercice concret de l'amitié, tout ce qu'on aimerait vivre avec l'ami, c'est radicalement remis au bon plaisir de Dieu. Et c'est pour ça qu'Épictète dit ça, hein, que ce qu'il y a de plus grand pour l'homme, c'est de vivre du bon plaisir de Dieu, d'accomplir la volonté de Dieu. Et donc l'homme religieux, vous voyez, a donc une espèce de sens, hein, du respect, j'ai presque dit, vous voyez, des droits de Dieu sur l'âme de son ami. Et donc ça lui donne comme une espèce, j'allais dire, de crainte, vous comprenez ? Pas de crainte servile. Hein. Ça c'est une crainte, la crainte de l'enfer, c'est une crainte servile. Hein. La crainte respectueuse de l'amour. Et quand on aime quelqu'un, on aurait peur de le blesser dans son amour. Oui. Si on aime vraiment quelqu'un, vous avez parlé tout à l'heure de la délicatesse dans l'amour. Oui. Aimer quelqu'un met en nous cette délicatesse par rapport à l'autre, hein, si c'est vraiment un amour spirituel. Évidemment, l'amour passionnel, c'est les gros sabots. Alors ça, c'est sûr que ce n'est pas tellement délicat. Parce que l'ami ne s'est pas occupé de nous depuis 5 minutes, on fait de l'agitation pour qu'il s'occupe de nous. Il y a des gens qui sont comme ça, vous savez. Hein, ils sont tellement dans la passion qu'ils se servent même de l'irascible. Parce qu'au moins, ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, oui. Au moins, en cassant des assiettes, je vois qu'ils m'aiment encore, oui. Parce que ça existe, oui. Le jeu passionnel, c'est l'aspect du drame, vous voyez. Oui, c'est très étonnant, parce que vous voyez, l'éthique religieuse fait justement dépasser dans l'amitié tout drame. Parce que le drame vient de la passion. Et donc, vous voyez, donne une liberté intérieure beaucoup plus profonde. Je sais que ce qui est l'absolu dans l'ami, c'est son âme spirituelle, qui est aimée plus par Dieu que par moi. Et donc, j'allais dire, vous voyez, presque la mesure de l'amour pour mon ami, c'est l'amour que Dieu a pour lui. Et donc, vous voyez, l'adoration me donne ce sens-là, me met dans cette présence. Oui, je crois que c'est important de voir ça. Alors, deuxièmement, vous voyez, puisque c'est cet absolu avant tout intérieur qui relève de l'adoration, ça donne aussi un sens beaucoup plus grand de la distinction très importante entre l'âme et le corps. Vous voyez, ça purifie l'amour d'amitié aussi de tout l'exercice passionnel et sensible. Alors, vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, j'y reviens, l'adoration ne suffit pas à acquérir les vertus, mais elle transforme d'une manière ultime cette exigence d'une purification de notre affectivité sensible pour mieux comprendre comment l'absolu de la personne de l'autre, c'est son âme. Avant tout. Vous savez, il y a une parole étonnante dans le livre, je crois, dans le livre des Rois, à propos du lien d'amitié entre David et Jonathan. Et il est dit ceci, « L'âme de David s'attacha à l'âme de Jonathan. » C'est très très beau. C'est le livre de Samuel. « L'âme de David s'attacha à l'âme de Jonathan. » Oui, c'est l'âme. Donc c'est un absolu intérieur de la personne, avant tout. Et c'est très étonnant, tandis qu'aujourd'hui, on met toujours en pleine lumière le corps. Ah non, l'amitié d'abord a quelque chose d'absolu au niveau du spirituel de l'âme, avant tout, la personne de l'autre. Et l'éthique religieuse, dans ce sens encore plus grand. Parce que l'adoration, vous voyez, nous intériorise. Et donc nous fait comprendre que l'absolu de la personne de l'autre, c'est d'abord son âme spirituelle créée par Dieu. Et donc, vous voyez, j'allais dire... la sensibilité, donc toute la dimension des passions, l'imaginaire, etc. Et donc l'adoration nous purifie de cela, donc, nous libère de l'amour d'amitié. Donc contribue à ce que notre amour d'amitié devienne de plus en plus intérieur et spirituel. Et ça implique aussi qu'on dépasse toute jalousie, tout accaparement. Parce que je vous ai dit, j'accepte que l'ami que j'aime soit plus aimé de Dieu que par moi. Ah oui, je crois que ça irait très très loin. Il y aurait beaucoup de choses à dire ici, je n'ai pas le temps de développer, mais il y a beaucoup de choses, vous voyez, qui sont très importantes, qui sont des problèmes très actuels, vous voyez, qu'il faut toucher au point de vue moral. Et c'est tous les liens constants, qu'on a déjà touché un tout petit peu hier, entre l'âme et le corps. Tous ces liens-là. Donc, ultimement, vous voyez, ce lien entre l'âme et le corps, bon, il est vécu par rapport à l'amitié. Mais il y aurait aussi dans cette lumière, vous voyez, avoir aussi bien le point de départ que le terme. Et donc, il y a la question dans cette lumière de la mort. Et dans une éthique de l'amour d'amitié fondamentale, la brisure de l'amitié, c'est la mort. Et vous voyez qu'on est toujours au niveau de l'exercice. Parce que vous n'avez pas à dire, vous n'aimez plus quelqu'un parce qu'il est mort, vous l'aimez. Mais il n'y a plus aucun exercice. Et la conséquence première de la mort par rapport à l'amitié, c'est la séparation. Et je suis séparé de l'autre. Il n'y a plus aucun exercice possible. Où est-il? Je ne sais pas. Et strict point de vue humain. Du point de vue religieux, oui, l'adoration me fait offrir, dans l'adoration, ma propre vie, donc ma mort, et par conséquent aussi la vie de mon ami et sa mort. Et par conséquent, l'adoration permet de regarder la mort de l'ami dans une nouvelle lumière. Oui. Elle n'est plus quelque chose d'uniquement de négatif, ce qu'elle est au strict point de vue de l'amitié. Et pour l'amitié, strictement au niveau humain, la mort est un échec. Parce que vous voyez, ce qui donne sens à toute ma vie n'est plus présent. Donc je peux plus. Mon ami n'a plus de sens, vous voyez. C'est vrai, vous voyez, son éthique qui est restée uniquement au niveau de l'amitié. S'il y a l'aspect de l'adoration, vous voyez, je sais que je vis dans l'adoration du fait que l'âme de mon ami, elle est créée par Dieu. Donc même si je ne sais pas ce qu'il advient de mon ami après la mort, je vis grâce à l'adoration dans cette confiance totale par rapport à Dieu qui garde l'âme de mon ami. Et donc l'adoration permet de porter la mort de l'ami. Alors, l'éthique chrétienne ira encore plus loin, parce que c'est mis ça à la résurrection, l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne, je sais que celui qui est mort et que j'ai aimé, il ressuscitera. Et donc, je continue à vivre avec lui dans la communion des saints. Dans le mystère du corps mystique du Christ. Je ne suis pas... C'est qu'une séparation temporaire. Dans l'éthique religieuse, je ne le sais pas, ça. Mais je vis dans l'adoration de l'offrande de la mort de l'ami. Et donc, elle n'est plus un drame absolu qui néantise toute ma vie. Elle est portée dans une autre lumière. Et donc, elle est source d'un abandon radicale. Vous voyez, l'abandon que produit l'adoration peut aller jusqu'au fait de faire une totale confiance à Dieu par rapport à la personne que j'ai aimée et qui m'a quitté. Je sais que Dieu veut son bien parce qu'il est Père et Providence. Et alors, je ne peux pas expliquer ce que c'est que la mort en philosophie, hein, parce que c'est un échec. Mais dans l'adoration, j'ai un moyen pratique de la vivre et de la porter. Et là aussi, vous voyez, c'est quelque chose qui nous met au seuil de l'éthique chrétienne. Hein, parce que seule l'éthique chrétienne permettra de répondre parfaitement, dans cette lumière, vous voyez, hein, à cette souffrance et à cet échec qu'est la mort. C'est le message propre de l'éthique chrétienne. Le Christ est mort et ressuscité. Mais donc, je crois que c'est important, vous voyez, de voir ça. Hein. Et puis, on pourrait voir encore de cette lumière, c'est tout le point de vue, tout ce qui est lié au corps, vous voyez, à l'exercice. Vous savez, c'est important, parce que, vous voyez, c'est des problèmes que les gens posent constamment. Ben, je n'ai pas le temps de développer, vous voyez, mais faites attention à ça. Vous voyez, on dira, oui, dans l'amour d'amitié, puisqu'il y a une union intérieure des âmes. Oui, comme dit Aristote, le preuve de l'amitié, c'est d'avoir le même vouloir. Donc vous avez constamment des gens qui diront, mais alors il faut aussi l'union des corps, elle est nécessaire. Et c'est le grand argument de beaucoup par rapport à l'homosexualité. Et alors est-ce que vous pouvez dire ça? C'est très important, oui, de voir, parce que c'est le sophisme qu'on dit. Hein. On dit, puisqu'il y a une union intérieure des âmes, il y a donc une union des corps qui est nécessaire. Et c'est ce qu'on dit, pour que l'amitié vive, soit vécue parfaitement. C'est le grand argument qu'on donne, qui donne souvent. Ah oui, il faut dans cette lumière un regard autre. Et je crois que c'est seule l'adoration qui fait saisir la distinction plénière. Et de comprendre que l'essentiel de l'amitié, et ce qui constitue l'amitié, c'est l'unité de volonté. Et comme dit saint Thomas, idem velle. Oui, là il y a une clé, hein, parce que je crois que sans l'adoration, il y a une chose, oui, qu'on ne peut pas comprendre jusqu'au bout. Autrement dit, vous voyez, les gens risquent de rester dans une sincérité dans l'ordre de l'amitié. Vous voyez, c'est sincère. Et, vous voyez, j'ai pris un certain exemple, je pourrais en prendre un autre. Vous voyez, on s'aime, on n'a qu'à vivre ensemble. Pourquoi? Qu'est-ce qui vient gêner ça? C'est sincère, mais est-ce que c'est vrai? Vous voyez, c'est très important, vous voyez, de voir comme question. Hein, parce que c'est pour ça que je disais hier qu'il y a comme une nécessité, hein, de l'éthique religieuse par rapport, comme achèvement d'une éthique humaine. Si j'aime vraiment la personne de l'autre, ça implique que je respecte l'autre jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui est le plus important dans l'autre? Son âme spirituelle faite pour Dieu. Et je n'ai au fond aucun droit sur l'autre. Alors, vous voyez, tous les droits, tout ce qu'on prétend vouloir accaparer de l'autre, au fond, est-ce que ce n'est pas toujours lié au corps? L'accaparement en nous vient toujours du fait de la cause matérielle, du corps. Et on veut accaparer l'autre dans l'ordre de l'exercice. Et parce que vous voyez, son âme spirituelle, on ne peut pas l'accaparer, elle n'appartient qu'à Dieu. Et donc c'est imaginaire quand on voit qu'on peut accaparer l'autre, vous voyez. Pour ça, c'est très intéressant de voir ça. Quand j'accapare l'autre, en fait, il faut bien voir que c'est passionnel et qu'en fait, j'accapare toujours l'autre par quelque chose d'un exercice sensible. Hein? Ah, c'est invraisemblable, tu dis que tu m'aimes et tu passes jamais de temps avec moi. Vous voyez, c'est le temps. Ah, tu dis que tu m'aimes et tu fais pas ça pour moi. Vous voyez, c'est le temps et donc c'est lié au corps. Mais l'âme de l'autre, je ne peux pas l'accaparer, elle n'appartient qu'à Dieu. Alors ça, vous voyez, je ne le comprends parfaitement que dans l'adoration. De voir que aimer l'autre, c'est être tout entier donné à lui, et non pas avoir un droit sur lui. Seule l'adoration nous purifie de ça, parce que l'adoration seule nous fait comprendre que l'âme de mon ami, elle vient de Dieu, donc elle n'appartient qu'à Dieu. Alors vous voyez comme c'est grand, parce que ça donne à l'amitié toute sa noblesse, d'aimer l'autre pour lui-même, jusqu'au bout, dans une gratuité totale. C'est très important et c'est très concret, vous voyez, de comprendre ça. Si l'âme de mon ami est créée par Dieu, je n'ai pas de droit sur elle. Et prétendre que j'ai des droits, c'est imaginatif, parce que quoi que je fasse, je n'atteins jamais son âme créée par Dieu. Directement, je n'ai pas de pouvoir sur elle. Elle ne dépend que de Dieu. Voyez, il y a une autonomie substantielle de l'autre dans son être, parce qu'il est créé par Dieu. Et tout accaparement, c'est imaginativement vouloir s'identifier à l'autre. Voyez, c'est la fusion psychologique, hein. On croit que parce qu'on aime, on est identique à l'autre. Mais non, vous n'êtes pas identique à l'autre. Vous serez toujours substantiellement deux êtres distincts. C'est très exigeant, ça, de comprendre ça. Parce que c'est la pauvreté de l'amitié. Hein. L'unité entre deux personnes humaines, au niveau de l'amour, demeure toujours avec un mode intentionnel. Nous resterons toujours deux êtres substantiellement distincts. Oui, si profondément que j'aime quelqu'un, je ne serai jamais un seul être avec cette personne. Ah oui, toutes les confusions imaginatives, hein, qui engendre ces confusions au niveau de la vie commune et du corps, c'est toujours une vision psychologique imaginaire de croire qu'on veut se fusionner avec l'autre. Donc on a la nostalgie d'être un avec lui, dans l'être. Et ce n'est pas possible. Et ça, vous voyez, seule l'adoration nous purifie de ça, parce qu'en définitive, c'est de l'orgueil. C'est ne pas accepter que notre amour humain est toujours un mode intentionnel. On voudrait que notre amour soit substantiel, mais il ne l'est pas. Et ça, c'est l'adoration qui nous fait comprendre. De même qu'à la contemplation, je ne la possède pas, je ne suis pas substantiellement amour dans tout ce que je suis. Seul Dieu est amour. Je ne peux pas dire « je suis amour », il faudrait avoir un sacré culot. J'aime mon ami, je ne peux pas dire « je suis l'amour », non. Seul Dieu est amour, seul Dieu est lumière. Et c'est très grand comme vision. Vous voyez, parce que, et ça, Platon l'a très très bien saisi, mais dans le banquet. Platon montre le mythe d'Aristophane, vous savez. Et Aristophane raconte ce mythe en disant qu'au point de départ, nous étions des sphères. Et que Dieu nous a punis en nous coupant en deux. Et qu'ainsi, il a fait un nœud et c'est le nombril. Parce qu'il a, il a fait une coupure, donc la peau. Alors il a retiré la peau, puis il a fait un nœud et c'est le nombril. Et donc, l'homme est malheureux tant qu'il n'a pas retrouvé celui à qui il était uni pour être une sphère. Vous voyez, c'est le mythe de l'âme sœur. Ah, je ne serais heureux que quand j'aurais retrouvé celui dont j'ai été séparé au point de départ. Vous voyez. Et Aristophane dit oui, vous voyez, on était. Alors vous voyez, on cherche. C'est très parlant, c'est un mythe très symbolique, mais c'est très juste psychologiquement. Vous voyez, au point de vue de la nostalgie, vous voyez, on cherche imaginativement une unité parfaite, mais on ne l'atteint pas, on est une créature, on n'est pas amour dans tout ce qu'on est. Et comme c'est important. Vous voyez. L'adoration nous met dans ce réalisme et dans cette vérité pratique. Que l'amour d'amitié de l'autre exige de respecter qu'il soit un autre que moi. Oui, c'est tout simplement ça. Et pour comprendre qu'il est tout à fait autre que moi, il faut que je comprenne qu'il dépend plus de Dieu que de moi. Parce qu'il existe avant que je l'aime. Et en tant qu'il existe, il ne dépend que de Dieu. Et pas de moi. Oui, je ne suis pas source d'être pour mon ami. Je veux dire, ah, grâce au fait que je t'aime, tu existes. Enfin, tu comprends que tu existes. Mais non. Oui. Tu sais, il y en a qui disent ça quelquefois, vous savez, la crise d'identité, vous savez. Ah, ça y est, maintenant je sais que j'existe, parce que j'existe pour quelqu'un. Espèce d'imbécile, vous existez. Et c'est intéressant, parce que vous voyez, on voit très très bien tout ça. Bien, ça, c'est l'adoration qui va nous purifier, vous savez. Donc, il va nous donner donc, tout ce réalisme ultime de l'amitié qui fait que j'aime vraiment l'autre pour lui-même, pour ce qu'il est. Alors oui, ensuite, ce que j'ai dit rapidement tout à l'heure, ça impliquera de comprendre que ce qu'il y a de plus grand dans notre amitié, c'est ensemble de nous ouvrir à l'adoration. Et c'est pour ça qu'Aristote dit lui-même, je concluais dessus, Aristote dit lui-même, que la plus grande des amitiés, c'est l'amitié de ceux qui cherchent la vérité, qui cherchent Dieu ensemble. C'est très très beau. Et donc la source la plus profonde de l'unité entre deux personnes humaines, c'est ensemble de chercher qui est Dieu. C'est très fort, et ça c'est humain, je ne parle pas ici du Christ. Alors, le niveau chrétien, ce sera de montrer l'identité entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est le mystère de la charité. C'est le même amour. Philosophiquement, je ne peux pas dire ça. Philosophiquement, je ne fais que dire que j'aime mon ami et que j'adore Dieu. Et que adorer Dieu approfondit mon amour d'amitié. En me rendant un sens beaucoup plus grand du respect de l'autre et de tout ce qu'il est comme personne humaine. Alors ensuite, il faudrait voir toute transformation des vertus, la prudence religieuse, etc. Vous y réfléchirez. Je vous remercie de votre attention, puis vous continuerez demain avec le Père Philippe. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles.